Bonnefeuille. 40 romans de la rentrée littéraire, lus par leur auteur. Aujourd'hui, Eva, de Simon Liberati.
J'ai choisi de lire donc le début d'Aurélia, roman de Gérard de Nerval. Le rêve est une seconde vie. Je n'ai pu percer sans frémir ces portes d'ivoire ou de cornes qui nous séparent du monde invisible. Les premiers instants du sommeil sont l'image de la mort. Un engourdissement nébuleux saisit notre pensée et nous ne pouvons déterminer l'instant précis où le moi, sous une autre forme, continue l'œuvre de l'existence. C'est un souterrain vague qui s'éclaire peu à peu et où se dégagent de l'ombre et de la nuit les pâles figures gravement immobiles qui habitent le séjour des limbes. Puis le tableau se forme, une clarté nouvelle illumine et fait jouer ses apparitions bizarres. Le monde des esprits s'ouvre pour nous. Swedenborg appelait ses visions « mémorabilia ». Il les devait à la rêverie, plus souvent qu'au sommeil. L'Andor d'Apulée, la divine comédie du Dante, sont les modèles poétiques de ses études de l'âme humaine. Je vais essayer, à leur exemple, de transcrire les impressions d'une longue maladie qui s'est passée tout entière dans les mystères de mon esprit. Et je ne sais pourquoi je me sers de ce terme « maladie », car jamais, quant à ce qui est de moi-même, je ne me suis senti mieux portant. Parfois, je croyais ma force et mon activité doublées. Il me semblait tout savoir, tout comprendre. L'imagination m'apportait des délices infinis, en recouvrant ce que les hommes appellent la raison. Faudra-t-il regretter de les avoir perdus ? C'est donc le début, l'incipit d'Aurélia, de Gérard de Nerval. C'est un texte absolument superbe, c'est un texte extrêmement célèbre, c'est certainement une des plus grandes influences sur le surréalisme, sur des choses qui vont venir après Nerval. Le pauvre Nerval, avec sa modestie, mais une modestie qui est quand même tempérée par cette certitude d'être voyant dans une certaine mesure et d'avoir vu des choses qui n'étaient pas seulement des folies. Le début d'Aurélia, c'est le début sur le rêve. Bah là, on retrouve Proust. Hein, le début de la recherche sur le sommeil, le réveil, toute cette description du sommeil, je la retrouve à l'état, on va dire primitif dans Aurélia, très très évidemment quand je lis ça, et ça m'émeut à chaque fois que je le relis, parce que c'est pour moi un morceau de littérature absolument impeccable. C'est un auteur que j'ai pas lu très jeune, que j'ai lu plus tard, que j'ai lu vers, je dirais, 25 ans. Et peut-être avant de lire Proust. Mais l'influence de Nerval sur Proust est fondamentale. Les jeunes filles de Proust viennent des jeunes filles, des filles du feu de Nerval, pour moi, évidemment. Et pour moi, Eva a fait partie d'une épiphanie, enfin d'une bande de jeunes filles, d'une théorie, comme on dit quand on est un peu pédant, de jeunes filles qui étaient, de jeunes filles ou de jeunes femmes qui me sont apparues quand j'avais 19 ans, dans les brumes des fumigènes et dans la nuit des boîtes de nuit. Et c'est Eva qui est une des influences majeures, avant que je la rencontre, avant que je l'épouse, qui a été une des influences majeures de tout ce que j'ai pu écrire depuis que j'ai commencé à écrire il y a 10 ans. Eva était dans ma vie depuis quelques mois et déjà j'ai commencé à écrire Eva. Et j'ai passé tous les mois d'écriture d'Eva avec Eva à côté de moi, qui n'avait pas lu le texte, qui ne l'a jamais lu, jusqu'à ce que je l'ai fini, et qui au début d'ailleurs n'était pas forcément extrêmement favorable au fait que j'écrive sur elle, parce qu'elle a posé longtemps pour un photographe qui était sa mère, et que c'était pour elle une sorte de retour à quelque chose qu'elle avait peut-être pas forcément envie de connaître. Mais voilà, je l'ai écrit comme ça. Et Eva était et a commencé en plus à vivre, Eva Ionesco, donc fille de photographe, a commencé à vivre très jeune, a commencé la vie d'adulte à 6 ans ou 5 ans, hein, les souvenirs de soirées, de toutes sortes de choses commencent vers 5 ans. Donc elle était quelqu'un d'extrêmement riche par sa nature et par la nature de ses expériences. C'était certainement une des personnalités les plus inspirantes par sa présence, par son charme personnel, mais aussi par le caractère fabuleux, employons le mot au sens ancien du terme, c'est-à-dire de fabula, d'histoire, de sa vie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une vie totalement fabuleuse. Fabuleuse, ça ne veut pas dire formidablement belle ou agréable de temps en temps, mais en tout cas, pleine d'histoire, on va dire.
Alors, écoutons Eva, dès ses premières pages, Simon
Duberati. Je vous lis les premières pages donc, d'Eva. L'air farouche est la principale qualité scénique que Synge prête à la jeune Peggin au début du baladin du monde occidental. Peggin, une jeune fille d'une vingtaine d'années, l'air farouche mais jolie, est assise à la table et écrit. Combien, en une seule phrase, une simple incise contient-elle de promesses ? Je connais de longues descriptions, des romans qui ne valent pas ça, l'air farouche mais jolie. Avec l'âge, mon champ de rêverie s'est accru. Dans ma mémoire, certaines présences de second plan se détachent maintenant, plus nettes que d'autres, longtemps éclairées, qui ont pâli. Quelle petite apparition oubliée, blonde, penchée sur une table, est-elle ranimée par ces mots, un matin de trouble, quand, à la différence de Peggin, je crains de ne plus arriver à écrire. Quelle autre jeune fille antérieure à Eva, je l'ignore. Peut-être une étrangère, suédoise ou danoise de 9 ou 10 ans, occupée à lire ou à dessiner dans l'hôtellerie d'un couvent où je passais l'été dans mon enfance. Il n'est pas indifférent que le fil premier de ce livre me ramène au couvent, au parfum d'encaustique des longs couloirs de ma jeunesse et à la religion qui ordonnait encore ma vie. Quelques mois à peine, avant que le fil de la nuit que j'avais commencé de suivre, car je la trouvais plus élégante que le jour, me conduise de rencontre en rencontre, dans un labyrinthe rouge et or, jusqu'à un minotaure enfant que je croisais plusieurs fois, sans jamais lui parler. Eva avait 13 ans, j'en avais 19, elle était mon aînée. Plus qu'un minotaure à la Garouste, on aurait dit une sirène des années 1950, dessiné par un peintre de foire. J'entends encore ces cris stridents résonner dans la galerie des vitrines du palace. Il faisait peur, il sentait l'embrouille aux autotamponneuses. J'avais d'autres vues à l'époque. Eva garda une forme claire dans ma mémoire, celle d'une figure de fond, sur la fresque compliquée d'une baraque foraine, un profil typique mais lointain. L'apparition majeure, approchée d'assez près pour la détacher des autres, n'était pas Eva, mais une de ses amies, fille comme elle de la nuit et des orphelinats. Edwige, fée androgyne, que j'ai aimée follement, à qui j'ai offert mes mocassins, trouvés aux puces de Montreuil, et dédié un court poème. Souviens-toi, moquette ange, souviens-toi de mon bel ange. Au cours des années qui suivirent, il m'est arrivé de penser à Eva, ou de citer son nom parmi d'autres. Encore adolescente, la dernière fois que je l'avais vue, elle appartenait à une époque ancienne vite dévaluée, un genre d'ancien régime dont le culte m'a longtemps semblé un enfantillage, mais que je ne parvenais pas à renier. Edwige était partie à New York, je ne croisais plus les gens de cette bande. C'est une autre enfant, perdue, morte, donc moins farouche, qui rouvrit, quand j'atteignais la quarantaine, le musée dont j'avais perdu la clé, plaçant Eva au centre, peut-être parce qu'à l'âge que j'avais alors, les toutes jeunes filles recommencent à plaire davantage. Elisabeth X, dite Babsy, s'est tuée à Berlin d'une overdose d'héroïne à 14 ans, comme Eva aurait pu le faire à la même époque. Une photographie de Babsy, en noir et blanc, orne le cahier central du livre « Moi, Christian F., 13 ans, droguée, prostituée ». Ce visage de sainte semble découpé dans un livre pieux ou un cartouche de sépulture. Il m'a tant fasciné que Babsy, de son tombeau berlinois, à réveiller les petites fées parisiennes de jadis, dont Eva était la Titania. Écrire leur élégie, l'éloge oisif de la jeunesse, de la grâce et de la perdition, m'a paru si important que j'ai cessé toute autre activité. Il me faudrait encore attendre 10 ans avant qu'une des créatures invoquées, la plus farouche, Eva, se réveille et vienne réclamer son dû. À vrai dire, je l'avais presque oublié. Mon livre eut l'effet ordinaire de conjurer le passé. On m'avait rapporté qu'une photographe célèbre avait reconnu sa fille dans un de mes personnages. J'avais donné le nom d'Eva à la plus jeune de mes enfants prostituées et son oraison funèbre, bien dans la manière de la bande d'autrefois, était, si ma mémoire est bonne, « Cette connasse a fait une overdose. Rien pour m'attirer ses grâces. » La première fois que je la revis, on nous présenta en haut d'un escalier le soir d'un dîner, célébrant l'album des photomatons de Pierre et Gilles. Nous nous sommes salués froidement. J'ai noté sa réserve sans y attacher d'importance. J'ai jugé à tort qu'Eva avait lu, sinon mon livre, au moins les passages qui pouvaient la concerner. Elle me parut alourdie, déchue physiquement malgré un regard magnifique et cet étrange nez de licorne. Elle tenait le haut des marches avec une dignité de reine ou de folle, probablement méchante. J'avais vu sur les affiches du métro qu'elle avait tourné un film d'autobiographie romancée. Je trouvais son titre « My Little Princess » beau, mais prétentieux à cause de l'anglais, non du titre lui-même. Voilà tout. Plus tard, dans la soirée, elle traversa la salle du restaurant au bras d'une personne très frêle, très jeune, très pâle, d'une grande beauté, une sorte de Galahad dont le sexe me parut incertain. Sans doute celui qu'elle attendait en haut des marches. Son amant, ma voisine, m'apprit qu'il s'agissait de son fils. À une manière de passer en reine, entre les tables du président, saluant d'anciennes photomatons tournées comme elle en grosse dame ou en vampire. À cet enfant exhibé comme un trophée, je reconnus l'éclat de la sirène d'autrefois. Les mois qui suivirent furent pour moi agités. Une sacrée bamboula. À l'âge où les diables se font ermites, je m'amusais. Je donnais de faux espoirs à mes amis qui pensaient que je pourrais en mourir. Ça ne m'aurait pas dérangé. Je cherchais la porte d'un autre monde. Mon petit hôtel parisien ayant fermé par ordre de la préfecture, j'avais obtenu de la patronne, en échange d'un peu d'argent liquide, d'y passer la nuit en clandestin de temps en temps. Le hall était verrouillé par un genre de clochard qui dormait par terre et ne se réveillait pas toujours à mes appels nocturnes. Une nuit que le clochard ronflait, D, un jeune camarade de Virée, que je surnommais la Vénézuélienne, parce qu'il est né à Caracas et se donne l'allure d'une pédale rastaquaire à l'ancienne mode, m'invita à finir dans sa chambre au sous-sol d'une petite maison du boulevard des Invalides. D, logé chez Marie, une Parisienne dont le nom m'était familier depuis très longtemps. Sans le savoir, tombant dans cette cave comme dans le terrier d'un lapin anglais, j'entrais dans un domaine gardé par les fées d'autrefois. À peine 2 mois plus tard, Eva, réveillée par ses sœurs, ne tardait pas à s'intéresser à moi. Le cinéma Trianon dormait. En montant les marches de l'ancien foyer, je vis une femme seule assise dans un fauteuil. Ses cheveux blonds étaient éclairés par la lumière du jour qui traversait de hautes croisées ouvertes sur le boulevard. Dehors brillait le soleil de fin janvier. À plus d'un mètre, je ne reconnais personne. Pourtant, je devinais à mi-volée à qui j'avais affaire. Une timidité oubliée depuis longtemps se réveilla, telle une ancienne douleur. Je m'étais arraché de la campagne pour l'après-midi, j'étais à jeun. Je ressentis presque de la terreur en rejoignant la femme assise, qui semblait enfermée sous une couche peu épaisse de terre rose et blonde, la sirène d'autrefois. Eva Ionesco, comme elle se présenta, affiche à l'abord un sérieux impeccable, une politesse de représentant de l'ordre. Mon oreille dépiste à ses usages ainsi que dans une pratique inopinée du jardin commercial. Je reviens vers toi. Les délinquants juvéniles ou des gens qui ont été persécutés par la psychiatrie. En usant du langage administratif, ils veulent donner le change pour éviter des éclats qui leur ont coûté cher. Je connais un ancien boxeur, un voyou, qui parle avec les mêmes précautions. La première voix qu'on entend d'Eva est d'un timbre à la fois sourd et haut perché. Il y a en elle quelque chose de brisé ou de bridé, une retenue, effet des médicaments, ou long et constant effort, obstiné, à contenir une rage assourdie. Elle-même n'en a plus conscience, mais qui peut revenir. Plus tard, quand notre amitié fut scellée, Eva m'apprit qu'elle avait consulté un médecin juste avant notre rencontre, étant la proie, en ce début d'année, d'une impulsion suicidaire qui l'incitait à se jeter par la fenêtre de chez elle. Ce déséquilibre date de l'enfance. Sa charge agissait comme une poussée en avant qui m'attirait et me tenait à distance, même sous les paroles ordinaires que nous échangions. L'être qui se tenait devant moi, d'abord assis, puis debout, je crois, quand une troisième personne est venue nous rejoindre, m'apparut d'une simplicité mystérieuse, doté d'un aplomb naïf au point d'être inquiétant. De stature incertaine, elle ne se tenait pas droite, mais les épaules à peine voûtées sous un port de tête étrangement placé, qui pouvait laisser imaginer qu'on la maniait avec des fils. Son nez, d'une pointe caractéristique, percé de longues narines évoquant immanquablement un tapir ou une prise électrique, son abondante chevelure blond cendré, cette voix éteinte et criarde, je ne les avais pas oubliés. Ils avaient traversé plus de 10 000 jours et 10 000 nuits sans trop de mal. Par contre, de grosses joues qui lui donnaient jadis l'air comique d'une méchante fillette de cartoon avaient fondu sous une peau épaisse, un peu affaissée, et son ancienne turbulence semblait assoupie, comme molletonnée dans la plume d'un léger embonpoint. Elle me fit penser, je ne sais pourquoi, à Eddie Cochran, dont elle rappelait l'élégance sous-cutanée, blonde, frémissante, vague, balourde, jeune, rauque et désespérée. La transfiguration de cette disparate en une personne encore très fascinante venait de son regard, le plus fort appel de l'au-delà que j'ai jamais reçu. Alors j'ai choisi un morceau qui est paradoxal puisqu'il s'appelle So Alone, donc c'est pas véritablement un morceau sur l'amour mais sur le couple, mais c'est un morceau que l'un comme l'autre, d'abord nous avons beaucoup aimé chacun dans notre coin en secret pendant des années, pendant 35 ans, et puis parce que Eva a peut-être été plus proche de moi, moi j'ai pas connu Johnny Sander qui chante cette chanson, qui était donc chanteur des New York Dolls, enfin guitariste des New York Dolls et chanteur des Heartbreakers. Et Eva l'a approché sans d'ailleurs l'apprécier fortement énormément. Mais la première fois que j'ai entendu parler d'Eva, j'avais 19 ans, 18 ans, et c'était pour le concert des Heartbreakers qui se produisait au Bataclan à Paris en 77, je crois, sans me tromper. Donc voilà, on m'a dit il y avait Eva Ionesco. Je ne savais pas qui était Eva Ionesco, mais ça avait l'air d'être quelqu'un.
Merci beaucoup, Simon Liberati.
C'était Simon Liberati, qui présentait son roman Eva, qui paraît aux éditions Stock. Les Bonnes Feuilles, Sandrine Trainer, Anne-Vanessa Prévost, Somanina, Manuel Couturier. Then it gets to the second week and things aren't the best. But then to the third, and you give it more and more, and you ain't even getting her left breast. That guy's fucking chopped off to the skin.